Chapitre 4. Vox Populi. Qui voulez-vous pour roi ? Cette terrible apostrophe, dont va dépendre l'avenir d'une nation, Monseigneur Adam Orleton la lance le 12 janvier 1327 à travers le grand hall de Westminster, et les mots s'en répercutent là-haut contre les nervures des voûtes. Qui voulez-vous pour roi ? Le Parlement d'Angleterre, depuis 6 jours, siège, s'ajourne, siège à nouveau, et Adam Orleton, faisant office de chancelier, dirige les débats. Dans sa première séance, l'autre semaine, le Parlement a assigné le roi à comparaître devant lui. Adam Orleton et John de Stratford, évêque de Winchester, sont allés à Kenilworth présenter à Édouard II cette assignation. Et le roi Édouard a refusé. Il a refusé de venir rendre compte de ses actes aux lords, aux évêques, aux députés des villes et des comtés. Orleton a fait connaître à l'Assemblée cette réponse, inspirée, on ne sait, par la peur ou bien le mépris. Mais Orleton a la conviction profonde, et qu'il vient d'exprimer au Parlement, que si l'on obligeait la reine à se réconcilier avec son époux, on la vouerait à une mort certaine. À présent donc, la grande question est posée. Monseigneur Orleton conclut son discours en conseillant au Parlement de se séparer jusqu'au lendemain afin que chacun pèse son choix en conscience et dans le silence de la nuit. Demain, l'Assemblée dira si elle souhaite qu'Édouard II Plantagenet conserve la couronne ou bien que celle-ci soit remise à l'héritier Édouard, duc d'Aquitaine. Beau silence pour les consciences que le vacarme qui se fait dans Londres cette nuit-là. Les hôtels des seigneurs, les abbayes, les demeures des grands marchands, les auberges vont retentir jusqu'au petit jour du bruit de discussions passionnées. Tous ces barons, évêques, chevaliers, squires et représentants des bourgs choisis par les shérifs ne sont en droit membres du Parlement que sur la désignation du roi, et leur rôle, en principe, devrait n'être que consultatif. Mais voici que le souverain est défaillant, incapable. Il est un fugitif rattrapé hors de son royaume, et ce n'est pas le roi qui a convoqué le Parlement, mais le Parlement qui a voulu convoquer son roi, sans que ce dernier ait daigné s'exécuter. Le suprême pouvoir se trouve donc réparti pour un moment, pour une nuit, entre tous ces hommes de régions diverses, d'origines disparates, de fortunes inégales. Qui voulez-vous pour roi ? Tous réellement se posent la question. Et même ceux qui ont souhaité le plus haut la prompte fin d'Édouard II, qui ont crié à chaque scandale, à chaque impôt nouveau ou chaque guerre perdue, qu'il crève et que Dieu nous en délivre. Car Dieu n'a plus à intervenir. Tout repose sur eux-mêmes, et ils prennent soudain conscience de l'importance de leur volonté. Leurs souhaits et leurs malédictions se sont accomplis, rien qu'en s'additionnant. La reine, même soutenue par ses ennuyés, aurait-elle pu se saisir de tout le royaume comme elle l'a fait si les barons et le peuple avaient répondu à la levée ordonnée par Édouard ? Mais l'acte est gros qui consiste à déposer un roi et à le dépouiller à jamais de son autorité nominale. Beaucoup de membres du Parlement se sont effrayés à cause du caractère divin qui s'attache au sacre et à la majesté royale. Et puis, le jeune prince qu'on propose à leur vœu est bien jeune. Que sait-on de lui, sinon qu'il est tout entier dans les mains de sa mère, laquelle est tout entière dans les mains de Lord Mortimer ? Or, si l'on respecte, si l'on admire le baron de Wigmore, l'ancien grand juge d'Irlande, si son évasion, son exil, son retour, ses amours même, en ont fait un héros, s'il est pour beaucoup le libérateur, on craint son caractère, sa dureté, son inclémence. Déjà, on lui reprocherait sa rigueur punitive, alors qu'en vérité, toutes les exécutions de ces dernières semaines étaient réclamées par les vœux populaires. Ceux qui le connaissent bien redoutent surtout son ambition. Ne désire-t-il pas secrètement devenir roi lui-même ? Amant de la reine, il est bien près du trône. On hésite à lui remettre le grand pouvoir qu'il va détenir si Édouard II est déposé, et l'on en débat autour des lampes à huile et des chandelles, parmi les pots d'étain qu'on emplit de bière. Et l'on ne va se coucher qu'écrasé de fatigue, sans avoir rien résolu. Le peuple anglais, cette nuit-là, est souverain, mais un peu embarrassé de l'être, ne sait à qui remettre l'exercice de cette souveraineté. L'histoire a fait un pas soudain. On dispute de questions dont la discussion même signifie que de nouveaux principes sont admis. Un peuple n'oublie pas un tel précédent, ni une assemblée un tel pouvoir qui lui est échu. Une nation n'oublie pas d'avoir été, en son parlement, maîtresse un jour de sa destinée. Aussi, le lendemain, quand Mgr Orleton, prenant le jeune prince Édouard par la main, le présente aux députés à nouveau assemblés dans Westminster, une immense ovation s'élève et roule entre les murs, par-dessus les têtes. « Nous le voulons ! Nous le voulons !» Quatre évêques, dont ceux de Londres et d'York, protestent et argumentent sur le caractère irrévocable du sacre et des serments d'hommage. Mais l'archevêque de Canterbury, Reynolds, auquel Édouard II, avant de fuir, avait confié le gouvernement et qui veut prouver la sincérité de son tardif ralliement à l'insurrection, s'écrie « Vox populi, vox Dei !» Il prêche sur ce thème comme s'il était en chaire pendant un grand quart d'heure. John de Stratford, évêque de Winchester, rédige alors et lit devant l'Assemblée les 6 articles qui consacrent la déchéance d'Édouard II Plantagenet. Primo, le roi est incapable de gouverner. Pendant tout son règne, il a été mené par de détestables conseillers. Secondo, il a consacré son temps à des occupations indignes de lui et négligé les affaires du royaume. Tertio, il a perdu l'Écosse, l'Irlande et la moitié de la Guyenne. Quarto, il a fait tort à l'Église dont il a emprisonné les ministres. Quinto, il a emprisonné, exilé, déshérité, condamné à une mort honteuse beaucoup de ses grands vassaux. Sexto, il a ruiné le royaume. Il est incorrigible et incapable de s'amender. Pendant ce temps, les bourgeois de Londres, inquiets et partagés, leur évêque ne s'est-il pas déclaré contre la déposition, se sont réunis au Guildhall. Ils sont moins aisés à manœuvrer que les représentants des comtés. Vont-ils faire échec au Parlement ? Roger Mortimer, qui n'est rien en titre et tout en fait, court au Guildhall, remercie les Londoniens de leur loyale attitude et leur garantit le maintien des libertés coutumières de la cité. Au nom de qui, au nom de quoi donne-t-il cette garantie ? Au nom d'un adolescent qui n'est même pas roi encore, qui vient à peine d'être désigné par acclamation. Le prestige de Mortimer, l'autorité de sa personne, opère sur les bourgeois londoniens. On l'appelle déjà le Lord Protecteur. De qui est-il protecteur ? Du prince, de la reine, du royaume ? Il est le Lord Protecteur, voilà tout. L'homme promu par l'histoire et entre les mains duquel chacun se démet de sa part de pouvoir et de jugement. Et soudain, l'inattendu survient. Le jeune prince, qu'on croyait déjà roi, le pâle jeune homme aux longs cils qui a suivi en silence tous ces événements et ne semblait songer qu'aux yeux bleus de Madame Philippa de Hainaut, Édouard d'Aquitaine, déclare à sa mère, au Lord Protecteur, à Mgr Orleton, aux Lords Évêques, à tous ceux qui l'entourent, qu'il ne scindra pas la couronne sans le consentement de son père et sans que celui-ci ait officiellement proclamé qu'il s'en défaisait. La stupeur gèle les visages, les mains tombent au bout des bras. Quoi ? Tant d'efforts remis en cause ? Quelques soupçons se tournent vers la reine. Ne serait-ce pas elle qui aurait agi secrètement sur son fils par un de ces imprévisibles retours d'affection, comme il en vient aux femmes ? Y a-t-il eu brouille entre elle et le Lord Protecteur cette nuit où chacun devait prendre le conseil de sa conscience ? Mais non. C'est ce garçon de 15 ans tout seul qui a réfléchi sur l'importance de la légitimité du pouvoir. Il ne veut pas faire figure d'usurpateur, ni détenir son sceptre de la volonté d'une assemblée qui pourrait le lui retirer aussi bien qu'elle le lui a donné. Il exige le consentement de son prédécesseur, non point qu'il nourrisse des sentiments fort tendres envers son père, il le juge, mais il juge chacun. Depuis des années, trop de choses mauvaises se sont passées devant lui et l'ont forcé à juger. Il sait que le crime n'est pas entièrement d'un côté et l'innocence de l'autre. Certes, son père a fait souffrir sa mère, l'a déshonorée, dépouillée. Mais cette mère, avec Lord Mortimer, quel exemple donne-t-elle à présent ? Si un jour, pour quelque faute qu'il lui arriverait de commettre, Madame Philippa se mettait à agir de même. Et ces barons, ces évêques, tous si acharnés aujourd'hui contre le roi Édouard, n'ont-ils pas exercé le gouvernement avec lui ? Norfolk, Kent, les jeunes oncles ont reçu, accepté des charges. Les évêques de Winchester et de Lincoln sont allés négocier au nom du roi Édouard. Les Despenser n'étaient pas en tout lieu, et même s'ils commandaient, ils n'ont pas exécuté eux-mêmes leurs propres ordres. qui s'est risqué à refuser d'obéir? Le cousin Autorcol, oui, celui-là a eu ce courage, et Lord Mortimer aussi, qui a payé sa rébellion d'une longue prison. Mais pour deux que voilà, combien d'obséquieux courtisans maintenant pleins d'ardeur à se décharger sur leur maître des conséquences de leur servilité? Tout autre prince de cet âge serait aisément grisé de recevoir une couronne tendue par tant de mains. Lui relève ses longs cils, regarde fixement, rougit un peu de son audace, et s'obstine dans sa décision. Alors, Monseigneur Orleton appelle à lui les évêques de Winchester et de Lincoln, ainsi que le grand chambellan William Blount, ordonne de sortir du trésor de la tour la couronne et le sceptre, les fait mettre dans un coffre sur le bas d'une mule, et lui-même, emportant ses vêtements de cérémonie, reprend le chemin de Kenilworth afin d'obtenir l'abdication du roi.